Dieu amène ainsi le croyant à comprendre que cet abandon de lui-même comprend aussi le corps, et que plus notre vie témoigne que le corps est pour le Seigneur, plus aussi nous éprouvons que le Seigneur est pour le corps. En disant le corps est pour le Seigneur, nous exprimons le désir de voir notre corps entièrement consacré, offert en sacrifice au Seigneur, et sanctifié par lui. En disant le Seigneur est pour le corps, nous exprimons la douce certitude que notre offrande a été acceptée et que par son esprit le Seigneur fera passer dans notre corps la force de sa vie et de sa sainteté, qu'il nous fortifiera et nous gardera désormais. Ceci est affaire de foi. Notre corps est matériel, faible, chétif, pécheur, mortel, aussi n'est-il pas facile de saisir d'emblée toute l'étendue de cette parole « Le Seigneur est pour le corps ». C'est la parole de Dieu qui nous explique la manière de nous l'assimiler. Le corps a été créé par le Seigneur et pour le Seigneur. Jésus a revêtu le corps terrestre. En son corps, il a porté nos péchés sur la croix et par là, il a affranchi notre corps de la puissance du péché. En Christ, le corps a été ressuscité et admis sur le trône de Dieu. Le corps est la demeure du Saint-Esprit, il est appelé à être éternellement participant de la gloire céleste. C'est donc avec certitude et dans un sens étendu, universel, que nous pouvons dire oui, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, est pour le corps. Cette vérité peut avoir diverses applications. Tout d'abord, elle est d'un grand secours pour la sanctification pratique. Il est plus d'un péché qui tire sa puissance d'une disposition physique. L'ivrogne converti a horreur des boissons alcooliques, et pourtant les appétits physiques lui sont, parfois encore en piège, remportant la victoire sur ses convictions nouvelles. Cependant, si dans la lutte il donne avec confiance son corps au Seigneur, tout appétit physique, tout désir de boire encore en sera diminué. Notre humeur aussi provient parfois de notre nature physique. Un système nerveux, irritable, produit des paroles vives, acerbes, peu charitables. Qu'on apporte alors son corps au Seigneur, on éprouvera bientôt que le Saint-Esprit peut mortifier les mouvements d'irritation, qu'il peut sanctifier le corps et le rendre irrépréhensible. Ces mots « le Seigneur » et « pour le corps » trouvent aussi leur application quant aux forces physiques que réclame le service du Seigneur. Lorsque David s'écrie à Dieu, qui me ceint de force, il entend par là la force du corps, car il ajoute aussitôt « il rend mes pieds semblables à ceux des biches et mes bras tendent l'arc des reins ». Psaume 18, 33,35, dans ces mots aussi l'Éternel est la force de ma vie, Psaume 27, 1, il ne s'agit pas uniquement de l'homme spirituel, mais de l'homme tout entier. Un grand nombre de croyants ont éprouvé que la promesse « ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces » Ésaïe 40, 31 s'adresse aussi au corps, et que le baptême de l'Esprit redouble les forces du corps. Mais c'est surtout par la guérison divine que nous voyons se vérifier ces mots « le Seigneur est pour le corps ». Oui, Jésus, le souverain et miséricordieux guérisseur, est toujours prêt à sauver et guérir. Il y avait en Suisse, il y a quelques années, une jeune fille, atteinte de phtisie pulmonaire et malade à la mort. Le médecin avait conseillé un climat plus doux, mais sa faiblesse ne permettait pas de l'y transporter. Elle apprit que Jésus est le guérisseur des malades. Elle crut cette bonne nouvelle, et une nuit qu'elle y pensait, il lui sembla que le corps du Seigneur s'approchait d'elle, qu'elle devait saisir à la lettre ces mots, « son corps pour notre corps ». Depuis ce moment, elle commença à se rétablir. Quelque temps après, elle put diriger des réunions bibliques et plus tard elle devint une ouvrière zélée et bénie dans l'œuvre du Seigneur parmi les femmes. Elle avait appris à comprendre que le Seigneur est pour le corps. Chère malade, le Seigneur t'a montré par la maladie quelle puissance a le péché sur le corps. Par ta guérison, il veut t'apprendre aussi quelle est la puissance de la rédemption sur le corps. Il t'appelle à montrer ce que tu n'avais pas compris jusqu'ici, que le corps est pour le Seigneur. Donne-lui donc ton corps. Donne-le-lui avec ta maladie, avec le péché qui est la cause première de la maladie. Crois, sans varier, que le Seigneur se charge de ton corps, et il fera voir avec puissance qu'il est réellement le Seigneur qui est pour le corps, le Seigneur qui a lui-même revêtu et régénéré le corps ici-bas. Du haut du ciel, où il est à présent, revêtu de son corps glorifié, il nous envoie sa force divine, voulant ainsi manifester sa puissance dans notre corps. 26e jour. Ne considérez point votre corps. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 19-21, lorsque Dieu promit à Abraham de lui donner un fils, jamais le patriarche n'aurait pu croire à cette promesse s'il avait considéré son corps déjà vieux et usé, mais il ne considéra point son corps, il ne voulut voir que Dieu et sa promesse, que la puissance et la fidélité de Dieu, qui lui assurait l'accomplissement de sa promesse. Ceci nous fait saisir toute la différence qu'il y a entre la guérison demandée aux remèdes terrestres et la guérison attendue de Dieu seul. Quand on recourt aux remèdes pour obtenir la guérison, toute l'attention du malade se porte sur le corps, considère le corps, tandis que la guérison divine nous appelle à détourner nos regards du corps et à nous abandonner, âme et corps, aux soins du Seigneur, ne nous occupant plus que de lui. Cette vérité nous fait également saisir quelle différence il y a entre la maladie tenue pour bénédiction et la guérison reçue du Seigneur. On redoute parfois de prendre la promesse de Saint Jacques dans son sens littéral, parce que, dit-on, la maladie est souvent plus profitable à l'âme que la santé. Il est vrai que lorsqu'il s'agit de la guérison obtenue par les remèdes terrestres, un grand nombre de personnes éprouveraient plus de bénédiction à rester malade qu'à recouvrer la santé, mais il en est tout autrement lorsque la guérison vient directement de la main du Seigneur. Pour recevoir la guérison divine, il faut confesser et délaisser si sincèrement le péché, il faut s'abandonner si complètement au Seigneur, renoncer si réellement à soi-même pour se placer dans sa main, et croire si fermement que Jésus veut prendre soin du corps, que la guérison obtenue ainsi ouvre aux croyants une vie nouvelle de communion intime avec le Seigneur. Il apprend par là à lui remettre entièrement le soin de sa santé, et le moindre indice de retour du mal est pour lui un avertissement à ne pas considérer le corps, mais à ne voir que le Seigneur. Quel contraste entre cet état-là et celui de la plupart des malades qui demandent la guérison au remède. Si quelques-uns d'entre eux ont été sanctifiés par la maladie, ayant appris à se perdre de vue eux-mêmes, combien d'autres sont portés, par la maladie même, à se préoccuper constamment d'eux et de l'état de leur corps. Que de soins ils apportent alors à observer le moindre symptôme favorable ou fâcheux? Quelle préoccupation du manger et du boire, des précautions à prendre pour éviter ceci ou cela? Quelle attention aussi à remarquer si on s'occupe assez d'eux, si on les soigne assez bien, si on les visite assez souvent? Que de temps se passe ainsi à considérer le corps et ses exigences, plutôt que le Seigneur et les relations qu'ils voulaient avoir avec leur âme. Et qu'ils sont nombreux ceux que la maladie préoccupe presque uniquement d'eux-mêmes. Tout ceci change totalement quand c'est du Dieu vivant qu'on attend avec confiance la guérison. La première chose qu'on apprend alors est celle-ci, cessez de vous inquiéter de l'état de votre corps, vous l'avez confié au Seigneur, c'est lui qui en est responsable. Si vous ne voyez pas aussitôt d'amélioration rapide, mais qu'au contraire les symptômes du mal paraissent s'aggraver, souvenez-vous que vous êtes entré dans une voie de foi, que vous ne devez donc plus considérer le corps, mais vous attacher uniquement au Dieu vivant. Le commandement de Jésus, « Ne vous inquiétez pas pour votre corps » Matthieu 6, 25 nous apparaît ici sous un jour nouveau. Lorsque Dieu appela Abraham à ne point considérer son corps, c'était l'appeler au plus bel exercice de foi possible, lui apprendre à n'avoir d'attention que pour Dieu et sa promesse. Il fut soutenu par sa foi et donna gloire à Dieu, convaincu que Dieu ferait ce qu'il avait promis. La guérison divine est un merveilleux lien pour nous attacher au Seigneur. Au premier moment, on redoute de croire que le Seigneur veuille étendre sa main puissante et en toucher le corps, mais en étudiant la parole de Dieu, l'âme prend courage et confiance. Enfin, on se décide à dire « J'abandonne mon corps entre les mains de Dieu, je lui en laisse le soin. » Le regard alors perd de vue le corps et ses sensations pour ne plus voir que le Seigneur et sa promesse. Cher lecteur, veux-tu, toi aussi, entrer dans cette voie de foi, bien supérieure à ce qu'on est convenu d'appeler la voie naturelle? Marche sur les traces d'Abraham. Apprends de lui à ne point considérer ton corps, à ne point douter par incrédulité. Considérer son corps fait aussitôt naître des doutes, tandis que s'attacher à la promesse de Dieu et s'occuper de lui seul fait entrer dans la voie de la foi, la voie de la guérison divine, celle qui glorifie Dieu. 27e jour. La maladie et la mort. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Psaume 90, 10 « C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages, tu ne craindras ni la peste, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je te rassasirai de longs jours. » Psaume 91, 3,6, 16 « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de CV verdoyants. » Psaume 92, 15. Voici ce qu'on objecte souvent à ces mots de Saint Jacques, la prière de la foi sauvera le malade. Jacques 5, 15. S'il est promis d'être toujours guéri en réponse à la prière de la foi, comment la mort serait-elle encore possible? Et on ajoute aussi, comment le malade peut-il savoir que Dieu, qui fixe le terme de la vie, n'a pas décidé de le laisser mourir de telle maladie? Dans ce cas-là, la prière ne serait-elle pas inutile et ne serait-ce même pas un péché de demander la guérison? Avant de répondre, nous remarquerons que cette objection s'adresse non à ceux qui croient en Jésus comme au guérisseur des malades, mais tout directement à la parole de Dieu et à la promesse si clairement énoncée dans l'épître de Jacques et ailleurs. Nous ne sommes pas libres de changer ou de limiter les promesses de Dieu chaque fois qu'elles nous présentent quelques difficultés. Nous ne pouvons pas non plus exiger qu'elles nous soient clairement expliquées avant que nous en venions à croire ce qu'elles nous disent. Nous devons commencer par les recevoir sans résistance. Alors seulement l'Esprit de Dieu nous trouve dans la disposition voulue pour nous enseigner et nous éclairer. Remarquons en outre que lorsqu'il s'agit d'une vérité divine qui a été longtemps négligée dans l'Église, elle ne peut guère être comprise d'emblée. Ce n'est que peu à peu qu'on en discernera l'importance et la portée. À mesure qu'elle reprendra vie, après avoir été acceptée par la foi, le Saint-Esprit l'accompagnera de nouvelles lumières. Souvenons-nous que c'est à cause de l'incrédulité de l'Église que la guérison divine lui a été retirée, et ajoutons aussi qu'il ne faut pas attendre d'un petit livre, comme celui-ci, tous les éclaircissements qui seront donnés plus tard, lorsque cette vérité sera devenue réalité vivante pour le peuple de Dieu. Ce n'est donc pas de la réponse de tel ou tel que chacun doit faire dépendre sa foi aux vérités bibliques, c'est pour les hommes droits, prêts à se soumettre à la parole de Dieu, que la lumière se lève dans les ténèbres. Psaume 112, 4. Quant à la première objection, il est facile d'y répondre. L'Écriture fixe à 70 ou 80 ans la mesure ordinaire de la vie humaine. Le croyant qui reçoit Jésus comme le guérisseur des malades s'en tient donc à cette déclaration de la parole de Dieu. Il se sent toute liberté de souhaiter une vie de 70 ans, mais non pas au-delà. En outre, l'homme de foi se place sous la direction de l'Esprit, qui lui fera discerner quelle est la volonté de Dieu à son égard si quelque chose devait s'opposer à ce qu'il atteignit l'âge de 70 ans. Toute règle a ses exceptions, aussi bien dans les choses du ciel que dans celles de la terre. Ce dont nous sommes certains selon la Bible, soit par les paroles mêmes de Jésus, soit par celles de Jacques, c'est que notre Père Céleste veut, comme règle générale, voir ses enfants en bonne santé, afin qu'ils puissent travailler à son service. Par la même raison, il veut les affranchir de la maladie, aussitôt qu'ils ont confessé leurs péchés et demandé la guérison avec foi. Pour le croyant qui a marché avec son Sauveur, fort de la force qui résulte de la guérison divine, et dont le corps est par conséquent, sous l'influence du Saint-Esprit, il n'est point nécessaire, quand viendra le moment de mourir, qu'il meure de maladie. S'endormir en Christ, telle est la mort du croyant, lorsque le terme de sa vie est venu. La mort n'est pour lui que le sommeil après la fatigue, l'entrée dans le repos. La promesse afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre, Éphésiens 6, 3 s'adresse encore à nous qui vivons sous la nouvelle alliance. Aussi plus le croyant a appris à voir dans le Sauveur celui qui guérit les infirmités, plus il a de liberté à réclamer l'accomplissement littéral de cette promesse « Je le rassasirai de long jour ». Il porte encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de CV verdoyants. Ce même texte répond aussi à la seconde objection. Le malade voit dans la parole de Dieu que sa volonté est de guérir ses enfants après la confession des péchés et en réponse à la prière de la foi. Ce n'est pas à dire qu'ils doivent être exempts d'autres épreuves, mais pour la maladie, ils en sont guéris parce qu'elle s'attache au corps, qui est devenu la demeure du Saint-Esprit. Le malade doit donc désirer la guérison, pour qu'elle manifeste la puissance de Dieu, et pour que lui-même puisse le servir en accomplissant sa volonté. Il s'en tient en ceci à la volonté révélée de Dieu, et pour les choses non révélées, il sait que Dieu les fera connaître à ceux de ses serviteurs qui marchent avec lui. Établissons bien ici que la foi n'est pas un raisonnement logique, qui doivent en quelque sorte obliger Dieu à agir conformément à ses promesses. Elle est bien plutôt la disposition confiante de l'enfant qui honore son père, qui compte sur son amour, pour le voir accomplir ses promesses et qui le sait fidèle à communiquer au corps, aussi bien qu'à l'âme, une force nouvelle. Cette force est celle qui résulte de la rédemption, et nous devons compter sur sa présence en nous jusqu'à ce que vienne le moment du délogement. 28e jour. Le Saint-Esprit, l'Esprit de guérison. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. À l'un est donné la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 4, 9, 11. Ce qui distingue les enfants de Dieu, ce qui fait leur gloire, c'est que Dieu demeure au milieu d'eux et se révèle à eux avec puissance. Exode 33, 16, 34, 9, 10. Depuis la nouvelle alliance, cette habitation de Dieu dans le croyant est plus manifeste encore que dans les temps anciens. Dieu envoie le Saint-Esprit à son Église, qui est le corps de Christ, afin qu'il agisse avec puissance en elle. C'est donc de lui que dépend sa vie et sa prospérité. Pour qu'on puisse reconnaître en elle le corps de Christ, il faut que l'Église laisse l'Esprit agir en elle sans réserve et avec pleine liberté. Alors les membres du corps entier pourront s'étendre aux manifestations de l'Esprit, car ils forment un ensemble, indissolublement uni selon ces mots, un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, 4. L'Esprit agit diversement dans tel ou tel membre de l'Église. On peut être rempli de l'Esprit pour accomplir telle œuvre et non telle autre. Il est aussi des temps, dans l'histoire de l'Église, où certains dons de l'Esprit sont accordés avec puissance, tandis que d'autres dons sont arrêtés par l'ignorance ou l'incrédulité. Partout où abonde la vie de l'Esprit, on peut s'étendre à voir reparaître aussi tous ces dons. Le don de guérison est l'une des plus belles manifestations de l'Esprit. Il est dit de Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Le Saint-Esprit était en lui esprit guérisseur et c'est ce qu'il fut aussi pour ses disciples après la Pentecôte. Les paroles de notre texte expriment donc ce qui était l'expérience continuelle des premières églises. Comparez avec attention Acte 3, 7, 4, 30, 5. 12,15, 16, 6, 8, 8, 7, 9, 41, 14, 9,10, 16, 18, 19, 11,12, 28, 8,9. L'abondante effusion du Saint-Esprit avait produit abondance de guérison. Quel enseignement pour l'Église actuelle! La guérison divine est l'œuvre du Saint-Esprit. La rédemption par Christ étant encore aussi son action puissante, et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous la transmettre, puis de la maintenir en nous. Notre corps participe donc au bienfait de la rédemption, et dès à présent il peut en recevoir le gage, par la guérison divine. C'est Jésus qui guérit, Jésus oint et baptisé du Saint-Esprit, Jésus qui a baptisé ensuite ses disciples du même esprit, c'est lui qui nous envoie le Saint-Esprit ici-bas, soit pour éloigner de nous la maladie, soit pour rendre la santé à notre corps, quand la maladie l'a atteint. La guérison divine accompagne la sanctification par l'Esprit. C'est pour nous sanctifier que le Saint-Esprit nous fait participer à la rédemption de Christ. De là son nom de saint. La guérison qu'il opérait, donc partie intrinsèque de son œuvre divine, et il l'accorde soit pour amener le malade à se convertir et à croire, Acte 4, 29,30, 5, 12,14, 6, 7,8, 8, 6,8, 9, 42, soit pour affermir sa foi, s'il est déjà converti. Il le presse, ainsi de renoncer au péché, et de se consacrer entièrement à Dieu et à son service. 1 Corinthiens 11, 31, Jacques 5, 15,16, Hébreux 12, 10, la guérison divine contribue à glorifier Jésus. La volonté de Dieu est que son Fils soit glorifié, et c'est là ce que fait le Saint-Esprit, quand il vient nous montrer ce qu'opère la rédemption par Christ. La rédemption du corps mortel paraît presque plus merveilleuse encore que celle de l'âme immortelle. C'est de ces deux manières que Dieu veut habiter en nous par Christ et triompher ainsi de la chair. Aussitôt que notre corps devient le temple de Dieu par l'Esprit, Jésus en est glorifié. La guérison divine a lieu partout où l'Esprit de Dieu agit avec force. Soit la vie des réformateurs, soit celle de certains moraves du meilleur temps nous en sont la preuve, mais il y a encore d'autres promesses touchant l'effusion du Saint-Esprit qui n'ont pas été accomplies jusqu'à présent. Vivons dans une sainte attente, priant le Seigneur de les accomplir au milieu de nous. Abandonnons-nous sans réserve à l'action sanctifiante de l'Esprit pour qu'il nous fasse marcher comme des croyants qui appartiennent exclusivement au Seigneur. Croyons que la volonté de Dieu est de nous voir en bonne santé, et alors la guérison divine nous sera accordée par l'Esprit. 29e jour. Que le malade guéri glorifie Dieu. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Luc 18, 43. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3, 8. On pense généralement que la piété est plus facile dans la maladie que dans la santé, que le silence et la souffrance disposent l'âme à chercher le Seigneur, à se mettre en communion avec lui bien mieux que les distractions de la vie active, qu'enfin la maladie, rend plus directement dépendant de Dieu.